Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode introductif du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Pourquoi introductif, me direz-vous ? Puisque je vais vous expliquer de manière relativement brève les différentes institutions européennes et les outils pour pouvoir les comprendre. Cela me permettra aussi de vous présenter des mots techniques que je pourrai réutiliser dans les prochains épisodes sans craindre que vous ne compreniez pas. Au préalable, je vais me présenter. Je m'appelle Guillaume Coulon. Je suis étudiant en droit international et européen en Master 1 à Paris-Saclay et je suis passionné par l'Europe. Par conséquent, si jamais vous entendez au détour d'une phrase le mot fédéralisme, n'ayez pas un AVC s'il vous plaît. Je tiens à garder mes auditeurs en vie. J'espère par ailleurs vous transmettre ma passion de l'Europe pendant ces épisodes. Après cette brève présentation de ma personne, nous pouvons commencer à nous intéresser aux institutions européennes. Quand nous parlons de l'Europe, deux organisations internationales sont en cause, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. En effet, ces deux organisations ne sont pas à mélanger, elles sont bien distinctes l'une de l'autre. Il est important de faire cette distinction car beaucoup de médias les confondent, ce qui confond aussi par conséquent les spectateurs. Il y aura donc de longues explications qui peuvent être rébarbatives, mais très importantes pour comprendre le fonctionnement de l'Europe. Tout d'abord, qu'est-ce que le Conseil de l'Europe ? Eh bien, le Conseil de l'Europe est une organisation internationale créée le 5 mai 1949 ayant pour but de promouvoir les droits de l'homme au niveau européen. Au départ, dans cette organisation, il n'y a que 10 États qui s'y sont engagés. La Belgique, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg. Par la suite, le 4 novembre 1950 est signée la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'on abrégera par les sigles CESDH. Cette convention est la plus importante au niveau européen pour la protection des droits de l'homme avec 18 articles consacrés à des droits et libertés fondamentales, comme le droit à la vie, l'interdiction de la torture ou la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il existe des protocoles additionnels à cette convention qui peuvent la compléter au niveau des droits protégés, mais ils sont facultatifs, contrairement à la CESDH qui est contraignante pour tous les États du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, 47 États sont membres du Conseil de l'Europe, avec notamment la Russie ou la Turquie. Cependant, pour protéger et faire appliquer cette convention, il fallait un organe judiciaire contraignant permettant aux justiciables, c'est-à-dire vous et moi, de se prévaloir de la convention en cas de violation de celle-ci par un État membre. Ainsi, en 1959, est créée la Cour européenne des droits de l'homme, que l'on abrégera CEDH. La Cour peut donc être saisie lorsqu'un État a supposément violé la Convention, pour condamner ce dernier si nécessaire. Et c'est là toute l'efficacité de cette protection qui oblige les États à protéger au niveau national les droits promus par la Convention. Par la suite, il convient de présenter l'Union européenne et ses institutions. Il est important de rappeler que l'Union européenne est assez récente, puisqu'avant c'était les communautés européennes du charbon et de l'acier en 1951. Puis avec le traité de Rome est instaurée en 1957 la communauté économique européenne, abrégée CEE. Au départ, il n'y avait que 6 États membres, dont la France. Mais grâce au succès de la CEE, beaucoup d'États ont rejoint cette organisation, menant à ce que l'on connaît aujourd'hui avec 27 États membres depuis le Brexit. Ce n'est qu'en 1992, avec le traité de Maastricht, que naît officiellement l'Union européenne, qui n'est plus uniquement une organisation de coopération économique comme la CEE, mais aussi une coopération politique. Cette coopération se voit étendue lorsqu'en 1999 est instaurée la zone euro avec 17 États des 27 qui en font partie. Le dernier traité en date est celui de Lisbonne de 2009 qui avait pour but de réorganiser et faciliter la compréhension des institutions de l'Union européenne. En 2000, à Nice avait été proclamée la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui sera intégrée par la suite comme texte contraignant juridiquement dans le traité de Lisbonne. Cette charte est composée de 54 articles protégeant les droits et libertés fondamentales au sein de l'Union européenne. Malheureusement pour les citoyens et heureusement pour les États, cette charte n'est invocable que pour des violations du droit de l'Union européenne et non pour du droit national, comme avec la CESDH. L'UE est composée de plusieurs institutions, organes et organismes qui ont chacun leur rôle et leur rôle ne peuvent dépasser les pouvoirs attribués par les traités. Les institutions de l'UE ne peuvent donc empiéter sur des compétences étatiques et les États ne peuvent empiéter sur les compétences de l'UE et de ses institutions. Il existe cependant des compétences partagées entre l'Union européenne et les États membres. Ceci dit, nous allons nous intéresser qu'à cinq institutions qui sont le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Cour de justice de l'Union européenne. Premièrement, le Conseil européen est l'institution qui réunit les chefs d'État des différents États membres. C'est donc eux qui établissent les grandes lignes politiques à mener au sein de l'Union européenne. Cette institution est présidée par Charles Michel et son siège est situé à Bruxelles. Deuxièmement, la Commission européenne est au niveau européen ce qui se rapproche le plus d'un gouvernement, avec un président et des commissaires qui ont chacun leur domaine d'action. Ils représentent donc le pouvoir exécutif de l'Union européenne. La présidente de la Commission actuellement est Ursula von der Leyen et son siège est situé à Bruxelles. Troisièmement, le Parlement européen est l'organe législatif de l'Union européenne, avec des députés élus par les citoyens et qui vont représenter leurs intérêts auprès des institutions et notamment lors des procédés législatifs avec les amendements. Le Parlement européen a deux sièges, un permanent à Bruxelles et un à Strasbourg pour les séances plénières. Le Parlement est actuellement présidé par David Sassoli. Il est important de préciser qu'au niveau législatif, l'Union européenne réalise des règlements et des directives. Les règlements sont d'applicabilité directe dans les États membres, alors que les directives doivent être transposées par les États, avec une marge de manœuvre laissée à ces derniers. Quatrièmement, nous avons le Conseil de l'Union européenne, qui fait aussi partie de l'organe législatif de l'UE. En effet, cette institution réunit tous les différents ministres des États membres d'un domaine particulier et voteront les règlements et les directives du Parlement qui leur sont soumis pour valider le texte. Il y a donc une navette législative entre le Parlement et le Conseil de l'UE. Le Conseil de l'UE a une présidence tournante entre les différents États membres. Son secrétaire général est actuellement, je m'excuse pour la prononciation, Jeppe Tranholm Mikkelsen, et son siège est aussi à Bruxelles. Cinquièmement, ou comme diraient nos comparses anglais, at last but not least, il y a la Cour de justice de l'Union européenne, abrégée CJUE. La CJUE est une institution qui dispose de deux organes. En effet, il y a le Tribunal de l'Union européenne, ou TribUE, et donc la Cour de justice en tant que telle. Le Tribunal et la Cour sont donc des juridictions qui peuvent être saisies par les institutions, les États membres et parfois des justiciables pour des violations du droit de l'Union européenne. Avant le traité de Lisbonne, la Cour était dénommée Cour de justice des communautés européennes, soit CJCE, et le tribunal, c'était le tribunal de première instance des communautés européennes, soit TPICE. Même si aujourd'hui on ne les appelle plus comme cela, il est important de les préciser car je serai peut-être amené à parler d'anciennes jurisprudences de la Cour et du tribunal. Souhaitez vous informer sur l'Europe, je vous recommande d'autres podcasts qui sont très bien réalisés, notamment Explique-moi l'Europe ou Parle-moi européen. C'est tout pour moi, à la prochaine, très chers auditeurs.